avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la vendée, on est fini pour la vendée.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la plus belle.
D'ailleurs, passé de 2 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info, comme quasiment tous les jours de la semaine, de 19h à 20h. Nous sommes un jeudi, nous sommes même le jeudi 13. Et comme le jeudi, tout est permis, c'est Delphine et Laurent pour ce Canu Info jusqu'à 20h. Le déroulé aujourd'hui, les prévisions que vous allez pouvoir, d'informations que vous allez pouvoir avoir. On va parler vive la grève, on va parler de la poste, on va parler un peu des énergie, on va parler de redressement fiscal, de liberté de la presse, de droit d'auteur, enfin voilà, de plein de choses. Et on ouvre tout de suite avec vive la grève.
Oui, alors c'est marrant ces histoires quand même de pénurie de carburant. Vous avez vu, les gens sont prêts à se battre. Il y a des gens qui donnent des coups de couteau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une fois, quand on a un peu débriefé tout ça avec Laurent, je t'ai dit que les gens, quand ils parlent de leur voiture, c'est comme quand ils parlent de leurs impôts, ils sont de droite. C'est assez caricatural ce que je dis, mais c'est, je trouve, pas mal vrai. Donc là, les gens se plaignent de plus avoir d'essence, mais les médias aussi en rajoutent une petite couche. Et surtout, ils font plus de reportages quand même dans les villes que dans les campagnes. Hein, c'est-à-dire que dans les campagnes, c'est là où on a le plus besoin de sa voiture, parce qu'on est plus,
parce qu'il n'y a pas d'alternative facile.
Ouais. Voilà. Mais alors, quand les journalistes sont des gens aussi paresseux, hein, les Parisiens, là, donc bah, ils vont là, à côté de chez eux, des fois, où ils envoient un pauvre gars ou une pauvre nana faire un reportage dans une autre ville. Mais enfin, bon, peut-être en train, hein, justement, c'est plutôt pas mal, ou en voiture, si le carburant est là. Mais on a l'impression un peu que c'est comme les pots de moutarde. Hein, en France, tout le monde s'est jeté dessus, enfin, et le pot de moutarde et le carburant, pour remplir le réservoir de sa voiture. Parce que peut-être que vous avez des gens autour de vous, hein, qui vous ont fait ces remarques. Mais comment vais-je partir en week-end? Alors il paraît quand même que les gens sont solidaires, mais ils sont surtout solidaires de leur voiture et de leur déplacement, puisque maintenant les gens se battent quand même pour avoir le droit, la possibilité de mettre du carburant à 2,50, pratiquement 3 euros nous annonce-t-on le litre de carburant.
Ça c'est les escrocs qui profitent du système, le capitalisme ça s'appelle.
Voilà, merci, hein, les petits profiteurs. Donc voilà, c'est intéressant cette pénurie, mais bien évidemment, hein, il s'agit bien d'une grève lancée par des salariés de Total Energy,
entre autres,
et de SO ExxonMobil. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est le vocabulaire, parce qu'au début, on nous a parlé de blocage. Les gens ne sont pas en train de bloquer, ils sont en train de faire la grève. Donc, effectivement, il y a pénurie parce qu'il n'y a pas d'entrée et de sortie, ouais, puisque ce sont des gens qui ont arrêté de travailler.
Et voilà,
ça c'est quand même
plus
extrêmement important, et c'est une petite différence.
Oui, et attention, ce sont des gens productifs, parce que la majorité des gens qui travaillent aujourd'hui, quand ils s'arrêtent de travailler, ça se voit pas tout de suite en fait. Mais là, ça se voit plus que c'est des gens qui sont utiles, qui fabriquent un truc que les gens ont besoin. Voilà, donc c'est pas des intermédiaires, des cadres, des gens qui servent à rien, non, ce sont des productifs. Et effectivement, Ils bossent plus dans les raffineries, et le pétrole, il sort pas.
Alors, la Total Energy propose 6% en 2023. Alors déjà, bon, on est en 2022. Coucou, hein.
La CGT, c'est quasiment l'inflation, donc c'est pas du tout une répartition des bénéfices. Hein, on rappelle, ils ont fait 14 milliards de bénéfices.
Ouais. Et la CGT, elle réclame 10%. Hein, en fait, ça peut vous paraître beaucoup, d'ailleurs. Évidemment, quand vous faites petit calcul chez vous sur votre propre salaire. Mais en vrai, pour une multinationale comme Total Energy, ça représente un peu quand même une petite crotte de bique. Vous voyez,
Par contre, vous avez appris un truc, si vous êtes de droite essentiellement, que c'est un métier qu'il faut faire. Il faut que vos enfants, ils aillent bosser là-bas. 5000 euros par mois, les mecs, ils gagnent.
C'est intéressant parce que c'est la propagande donc sortie des communiqués hein, de Total Energy qui ont balancé tout ça dans du va-et-vient. Allez hop, on y va en attaque. Mais il faut dire que entre les médias qui posent la question juste avec un titre, et vous savez, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes nombreux à ne lire que les titres hein, sur les plateformes, que ce soit Google Actualité, que ce soit après sur les réseaux sociaux et commerciaux divers et variés, parfois très avariés d'ailleurs, on n'a que ces titres. Hein, donc quand c'était écrit 5000 euros, point d'interrogation, les gens ont commencé à relayer ça. Alors surtout les trolls et les trolls de droite, tous ceux et toutes celles qui détestent avec une passion toujours aussi présente la CGT, qui parfois mérite, on va pas le dire, hein, mais et quand même... C'est les syndicalistes, il y a un mouvement de grève, il y a toujours des gens qui sont par haine capables de sortir les pires horreurs. Donc on a vu ce 5000 balles, voilà. Et alors après, moi sur Twitter, j'ai vu arriver des gens qui, par solidarité, disaient « je gagne 5000 balles ». Donc j'ai jamais vu autant de gens avoir gagné 5000 euros. Ou alors tous les gens qui sont sur Twitter sont tous des riches. Ah ouais, mais c'est peut-être aussi une possibilité, je n'ai pas les chiffres des utilisateurs et utilisatrices de ce réseau... de communication. En tout cas, toujours est-il que pour une fois, je suis d'accord avec Monsieur Corbière hein, de la France Insoumise, c'est qu'ils ont bien raison, les grévistes, de demander autant d'argent, surtout quand on a un patron qui s'est augmenté de 52%. Alors, vous allez me dire, c'est pas son salaire en l'état qu'il a augmenté. On vous rappelle que les grands patrons, il y a du fixe, du variable, et il y a surtout des actions. Et c'est bien sur ça, aujourd'hui, que le patron de Total gagne beaucoup d'argent, hein, Patrick Pouyanné, c'est parce que on lui a filé un peu plus d'actions, et qu'en plus de ça, grâce à la crise, grâce à la guerre en Ukraine, grâce à tout ça, l'action, elle vaut beaucoup plus cher qu'avant.
Grâce à toutes celles et ceux qui vont acheter des trucs chez lui. Parce que si il n'y avait plus que des cyclistes et qu'il restait que des pauvres artisans, des infirmières ou des gens qui font de l'aide à la personne, qui utilisent leur voiture, ils allaient avoir du mal à faire des milliards de bénéfices. Il faut bien la coopération des automobilistes non obligés. Hein. La grande majorité, il y a des chiffres qui sont sortis, on est à peu près à 75%, 80% des gens qui ont des alternatives à la voiture et qui ont quand même une voiture, c'est eux qui collaborent et qui enrichissent ce patron. Hein. C'est pas toi, a priori.
Non, c'est le travail. Alors d'abord, c'est pas moi, c'est le travail des salariés qui a enrichi le patron. Parce qu'on les payant aussi mal et aussi bas, forcément, lui, il peut s'enrichir, les actionnaires aussi. Oui. Sur le dos des travailleurs et des travailleuses de Total Energy, c'est d'abord eux qui sont...
Il faut quand même des gens qui achètent les produits.
Et bien évidemment. Mais c'est quand même... à eux et elles que je pense. Donc il y a eu cette histoire hein, évidemment de salaire qui a été utilisé par les trolls de droite et par les soutiens de Total Energy et les amis de Patrick Pouyanné. On parle quand même de rémunération en millions d'euros. Je veux dire, c'est que il y a quand même des gens à Total Energy. Enfin, même dans les raffineries, si tu touches tes 3000 balles brutes par mois, allons-y. Vous vous rendez compte de la différence quand même, vous multipliez par 12, même s'il y a des primes et tout, on n'arrive pas à ça. Donc on a juste, encore une fois, un grand écart hein, entre tout ça. Et donc on peut penser que de toute façon, même s'ils gagnaient tous et toutes 5000 balles, ils pourraient encore demander des augmentations vu les bénéfices.
Ouais. Puis on rappelle dégagés. Que le patron, il est incapable de travailler, de produire. Hein, si jamais, là, il se passe un truc, une apocalypse, massin, puis que chaque région est autonome, les mecs, les ouvriers, les techniciens, ils feront tourner la raffinerie. Ils seront capables, eux, Pouyanné, tous ces gens-là, ils vont faire quoi dans leur bureau quand ils serviront plus à rien? Donc en fait, l'inversion des bénéfices et des salaires devrait être dans le sens de ceux qui produisent devraient être bien payés, et ceux qui gèrent et vivent sur le dos des travailleurs et des travailleuses, mais ils devraient moins toucher d'argent quand même, ça serait la logique. Mais ça, c'est à l'inverse de la logique capitaliste, c'est la logique utilitariste. On paye plus ceux qui sont productifs et qui servent à quelque chose. Voilà, bon, mais on n'est pas dans cette logique.
On a bien vu d'ailleurs que le gouvernement n'appelle pas aujourd'hui la direction direction de Total Energy a abaissé le dividende, a abaissé le salaire de M. Pouyanné, appelle pas à prendre les responsabilités à la direction de Total Energy pour faire cesser la grève, c'est-à-dire en répondant aux demandes des salariés. Non, on voit Mme Borne qui décide qu'il va y avoir une réquisition des personnels. Alors par exemple, là, il y a eu 3 personnes. Hein, vous allez me dire.
C'est pas beaucoup. Hein.
Ouais, mais alors c'est les 3 pauvres personnes quand même.
Ouais, là, j'ai pas de chance si ça tombe sur toi.
Il y a un moment de petite solitude quand même qui doit t'effleurer, là, comme ça. Alors c'est sur les dépôts de Exxon Mobil hein, à Port-Jérôme-sur-Seine. Le truc c'est que voilà ça, il y a un référé hein, qui est lancé par la CGT. On verra ce que ça donne. Demain je pense qu'on aura un retour sur cette affaire. Mais voilà, la grève elle est donc reconduite hein, chez Total Energy dans l'ensemble des sites touchés. C'est ce que la CGT a annoncé aujourd'hui. Du côté de la raffinerie de Fos-sur-Mer, là il y a un mouvement de grève qui prend fin. Et puis il y a Gramenchon-Port-Jérôme hein, là Dessau ExxonMobil, le mouvement de grève se poursuit. Alors c'est un mouvement de grève, hein, on rappelle, hein, y a des gens qui perdent leur salaire, c'est un mouvement qui est collectif. Donc du coup ça permet de tenir au niveau du mental, mais on sait bien qu'au niveau du porte-monnaie c'est pas exactement la même chose. Le mouvement pourrait s'amplifier dans le reste des secteurs de l'énergie. On a pu voir peut-être
dans le nucléaire oui, alors c'est dans les centrales qui sont à l'arrêt et c'est les gens qui font la maintenance a priori, de ce que j'ai compris en termes de salariés qui sont mobilisés pour l'instant pour la grève, mais effectivement ça pourrait faire tache d'huile mais pourquoi que ces secteurs là d'ailleurs, dans tous les secteurs hein, puisque il y a aussi derrière, on rappelle, la casse sociale que fait le gouvernement, tout ce qu'on connaît, hein, ça marche pas que pour les retraites, hein, ni que pour les salaires, hein, avec l'inflation qu'on a et les salaires qui augmentent pas. Mais donc, il y a d'autres enjeux qui peuvent parasiter d'ailleurs la clarté du mouvement si ça s'élargit. Mais l'intérêt, c'est si ça s'élargit pour mettre la pression sur le gouvernement.
On a déjà la CGT cheminot hein, qui a annoncé par exemple faire grève mardi prochain, le 18 octobre.
Il y a une grève dans l'éducation là qui est annoncée parce que le gouvernement a pris la décision de quasi détruire le lycée professionnel pour les transformer en CFA, centre de formation des apprentis. Donc il y a des réformes en cours pour casser et le statut de prof et l'enseignement professionnel. Donc il y a des mobilisations aussi dans l'éducation qui arrivent.
Alors pour vous parler d'une autre lutte, on va pas forcément s'étendre sur cette question des raffineries parce que c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'informations de partout. Il y a des sites de syndicats qui relaient aussi les choses sur les réseaux sociaux et commerciaux. On trouve plein d'informations. Les grands médias quand même, il faut le dire, hein, le mainstream et tout donnent quand même de l'info. Et on a pu voir quelques partis pris quand même pour les grévistes, hein, aussi surprenant que cela puisse paraître.
Pas tant que ça, mais quand même un peu.
Non, mais c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de reportages tous les jours hein, sur les journaux de France TF1, hein, oui, j'allais dire. Je faisais un lapsus en mélangeant les deux. Sur les chaînes d'infos en continu, pour vous montrer tous les pélos qui sont, hein, je le dis comme ça, exprès, avec leur voiture, en train de se klaxonner, s'insulter pour aller chercher de l'essence. Ça, c'est devenu le marronnier en ce moment. Ça occupe les chaînes... dans l'information. Donc je voulais revenir sur une lutte pour quelque chose qui a pris du temps. On va remonter en 2011. C'est loin. Hein. C'est la Poste qui décide de fermer son centre de tri de Bellem. C'est vers Nantes. Voilà, c'est en Loire-Atlantique. C'est un centre de tri qui avait ouvert en 96 suite aux grèves de 95. Je vous rappelle qu'il y a eu des grosses grèves en 95. Donc le site ouvre. À l'époque, il y a une trentaine de CDI et il y a surtout beaucoup de CDD, des intérimaires. Ça représente à peu près 70 personnes, c'est-à-dire plus nombreux que les CDI sur place. En tout cas, les CDD vont cumuler contrat après contrat, on parle de 4000 contrats, et ce sont souvent les mêmes personnes qui vont passer d'un CDD à un autre, cumule. Le truc, c'est qu'à un moment, quand il y a la Poste décide de fermer ce centre de tri, eh ben, pour les CDI, il va y avoir une possibilité de reclassement. Pour les CDD, il se passe rien parce que la Poste, elle a agi d'une manière très intelligente, ce groupe, c'est qu'elle avait mis fin, par exemple, à des CDD avant la fermeture, ce qui fait que les CDD, du coup, ils n'étaient plus là au moment de la fermeture, donc il n'y avait plus besoin de s'en occuper. C'est pratique, hein, moi, je trouve ça. Donc, elle avait licencié un certain nombre aussi de personnes, et donc, il y a 18 de ces travailleurs et travailleuses qui s'étaient engagés avec Sud PTT dans une procédure contre la Poste, hein, conseil des prud'hommes, cour d'appel de Rennes, puis cour de cassation. Et ça y est, après, vous voyez, hein, 2011 quand même, la fermeture, après une décennie de lutte, on a appris que la Poste est condamnée à verser 1 300 000 euros à ses salariés qui s'étaient vus quand même mettre dehors finalement sans rien hein, à la clé. Alors il faut bien se rendre compte quand même que la Poste avait mis tout en place un procédé pour ne pas avoir à gérer ses CDD, comme je vous le disais au tout début, qui était majoritaire hein, face au CDI. Donc c'est plutôt une lutte acharnée qui a porté ses fruits, mais il faut être patient et patiente parfois dans les luttes. C'est bien ça le problème, hein, c'est passé 10 ans, surtout quand on s'est fait virer, qu'on est en CDD, qu'on est précaire. Passer 10 ans de lutte, c'est un moment quand même incroyable de sa vie, mais finalement... savoir qu'on peut quand même vaincre face à cette direction, ce patronat qui s'organise. Moi, bah, je dis bravo voilà, à tous, bravo aux syndicats aussi hein, qui se mobilisent. Mais c'était quand même des faits aussi d'école, hein, c'est-à-dire que les CDD, bah, quand les femmes, il y a eu plusieurs cas de maternité, il y a 2 femmes qui racontent, par exemple, que quand elles ont annoncé être enceintes, bah, elles n'ont jamais été reprises en CDD. Par contre, quand elles étaient sorties de leur période de congé maternité, elles ont été réembauchées sur le site. Donc la Poste n'a eu que de processus de ce type, et le truc aussi du CDD, c'est qu'à chaque fois que les gens étaient rembauchés, eh ben, elle les faisait recommencer en bas, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus l'ancienneté, il n'y avait plus rien. Donc c'est aussi là voilà, comment la Poste a manipulé aussi le droit du travail avec ses contrats de CDD, et voilà, là c'est plutôt une belle victoire.
Allez, on va faire une rubrique énergie-environnement tout de suite pour changer de sujet sur les luttes. Et on va parler, commencer par parler un petit peu d'Afrique, parce que l'Afrique est pas mal en peine en termes d'énergie, d'électricité notamment, et d'électricité solaire en particulier. Et c'est de ça dont on va parler. Puisque l'électricité d'origine solaire a un impact très très faible sur le climat, vous le savez, les coûts sont relativement faibles aujourd'hui, et on se dit, bah, tout ça... ça devrait faire que c'est installé en Afrique, hein, puisque l'Afrique coche toutes les bonnes cases. Toutes les bonnes cases, puisque même l'Agence internationale de l'énergie dit que 60% des surfaces, des meilleures surfaces sur la planète pour l'énergie solaire se trouvent en Afrique. Ben, on se dit, c'est bien. Et pourtant, l'Afrique n'a que 1% de la puissance solaire installée. En termes d'idées, hein, en Afrique, il y aurait à peu près 7,4 gigawatts actuellement d'installés. En Allemagne, pays qui est me semble-t-il moins ensoleillé que le nord et le sud de l'Afrique, par exemple, eh ben, il y en a 8 fois plus. Un peu plus de 58 gigawatts. Donc, bon, on est, y a un retard certain sur l'Afrique. Et il y a une société de conseil, les trucs un peu parasites, là, britannique, mais qui a fait un travail qui est un peu intéressant, qui s'appelle Africa Energy, qui dit, oui, mais ça, le problème est en train d'être résolu, puisque actuellement, il y a beaucoup de projets en Afrique pour basculer vers l'énergie solaire, et d'après leurs calculs à eux, dès 2024, donc c'est-à-dire demain, l'Afrique passerait de 7 à 23 gigawatts. Donc une grosse, grosse progression. Alors on peut prendre par exemple l'exemple de l'Afrique du Sud, qui est un marché en plein boom en termes de photovoltaïque aujourd'hui en Afrique du Sud. Alors l'État a aidé à ce que ce soit en plein boom. D'abord, ils ont permis des installations jusqu'à 100 mégawatts sans licence, c'est-à-dire sans les contraintes d'installer un parc, etc., avec les contraintes juridiques qu'il peut y avoir. Un peu comme, du coup, tout ce qui est en dessous de 100 mégawatts, c'est considéré comme des installations de particuliers. Alors ça a pas mal aidé à développer. Il y a un deuxième truc qui aide à ce que l'Afrique se développe dans le photovoltaïque. Bah, c'est l'entreprise Eskom, qui est le fournisseur public d'électricité, qui est une catastrophe. En termes d'investissement, ça a été nul. Et du coup, il y a des coupures régulièrement, 2-3 heures par jour. Et ça commence à être, c'est un peu compliqué pour les Sud-Africains, les Sud-Africaines. Donc ça fait qu'il y a une incitation finalement assez forte à l'installation de solaire, notamment privé, sur les toits, sur tout ce qui peut tenir des panneaux solaires. Et avec l'utilité pour certains d'avoir des batteries et de pouvoir aussi avoir donc du coup de l'électricité la nuit, puisqu'il y a des coupures qui se font la nuit aussi. Les coûts sont acceptables en Afrique du Sud. Pour une installation classique, il faut 5 ans pour l'amortir, et pour une installation avec des batteries, il faut 7 ans. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors il faut savoir que il n'y a pas l'Afrique du Sud a des projets autres, notamment officiels, c'est-à-dire non particuliers, mais officiels, de centrales à charbon. Alors, la Chine finançait pas mal hein, les centrales à charbon en Afrique. Elle a tout arrêté là. Hein, elle ne finance plus aucune centrale. Donc il y a certains pays comme l'Afrique du Sud et le Zimbabwe qui vont terminer l'installation des nouvelles centrales, et les autres pays qui étaient concernés par cette aide chinoise, eh ben ils vont arrêter de les construire, ou ils vont pas les construire du tout, et ils vont basculer vers le photovoltaïque. Alors ça concerne, donc là c'était l'exemple de l'Afrique du Sud, mais le nord de l'Afrique est aussi très concerné, hein. Il y a des régions désertiques entières qui peuvent avoir des panneaux solaires et alimenter l'ensemble de la planète. Il faut quand même le dire, vu le potentiel de l'Afrique, mais au moins alimenter les populations locales. Et pour le centre de l'Afrique, tout ce qui est autour de l'équateur, alors là on est dans des situations différentes, hein, parce que là il y a beaucoup plus d'eau, de nuages. En fait, bon, peut-être moins que l'Allemagne quand même, hein. Mais l'intérêt des installations photovoltaïques se développe. Enfin, l'intérêt c'est que elles peuvent être petites, à faible coût, et il y a des problèmes de financement en fait dans certaines régions autour de l'équateur en Afrique. Et ben le fait qu'on puisse faire des petites installations, ça permet de commencer doucement et de lancer des au début il y a 2-3 personnes dans le village qui ont une installation, puis après ça se développe, etc. Donc il y a un vrai potentiel pour l'énergie solaire photovoltaïque en Afrique. Ce que dit l'étude de ce cabinet de conseil anglais là, c'est que effectivement c'est en grosse phase de développement, donc on fera le dans quelques années, mais c'est bien parti. Alors pourtant, il y a quand même des pays qui font un peu exception, qui résistent à tout ça, qui résistent pour différentes raisons, pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques. On pense par exemple à certains pays du Maghreb, hein, donc qui sont en train de passer des accords avec la Russie pour installer du nucléaire et faire de l'électricité. Alors quel est l'intérêt d'installer une centrale nucléaire dans un pays où on peut installer du photovoltaïque partout et il fait beau tout le temps? Bon, en termes de production d'énergie électrique, il n'y a pas d'intérêt. Surtout que le coût de l'énergie solaire photovoltaïque est imbattable aujourd'hui, hein, c'est ce qu'il y a de moins cher. Mais par contre, ça peut permettre d'avoir du plutonium pour faire des bombes. Hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ces accords. Et après, c'est des accords politiques, hein, qui peut y avoir entre certains pays d'Afrique et la Russie. La Chine va plutôt du côté du solaire, donc on va dans le bon sens dans certains accords, et d'autres vont dans le mauvais sens. Voilà. Alors, on pense au Maroc, hein, c'est le Maroc que j'avais en tête sur les négociations qui sont en cours avec la Russie. Alors, puisqu'on parlait de nucléaire, en restant dans le nucléaire, j'avais raté un rapport là de cet été, je vais en reparler juste brièvement, parce que j'ai relu des extraits de ce rapport de l'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, qui a publié un gros avis là sur les EPR, vous savez, les nouvelles centrales qui sont en construction. Donc nous c'est Flamanville pour la France, il y en a en Chine qui tourne, il y a celle de Finlande qui vient de démarrer, l'EPR finlandais qui vient de démarrer, et il réexplique un peu le cœur du problème de ces centrales. Donc avec, ils disent officiellement, hein, il y a un défaut de conception. Il y a un défaut de conception, ça avait été bien détaillé après les histoires chinoises là, où en fait la cuve a été mal conçue. Dans le terme, ça s'appelle le plénum inférieur, qui est mal conçu, qui fait qu'il y a une circulation d'eau qui est sous pression dans la cuve, qui se fait mal et qui attaque les barres de combustible, hein, d'uranium. Il n'y a pas que de l'uranium, il y a une structure qui tient l'uranium, etc. Et donc l'IRSN avait relevé tout ça. Alors bien sûr, des structures indépendantes avaient déjà notamment émis cette hypothèse. On pense à la CRIRAD, hein, qui est la structure indépendante qui ne dépend pas de l'État, mais là c'est officiel, il y a un défaut de conception. Alors la France qui se glorifie, la France EDF, Macron, tous les nucléophiles qui se glorifient qu'on est super bon en nucléaire, parce qu'ils disent on à chaque fois, on a l'impression que c'est eux qu'on fait les plans de la machine, hein. Donc on est super bon, et ben non, vous n'êtes pas super bon, parce que il y a des erreurs de conception importantes. Alors il y avait l'idée de rajouter une plaque au fond là pour essayer de casser les flux. L'IRSN dit qu'il faut pas faire ça, c'est pas forcément une bonne idée. Donc là ils renforcent en fait les tubes de combustible, puisqu'il y en a des nouveaux qui ont été livrés il y a quelques semaines à l'EPR de Flamanville. Voilà, c'était juste pour rappeler ça. Et toujours sur le nucléaire, il y a eu une réaction, il y a une grosse manipulation dans le nucléaire, vous le savez toutes et tous, hein, tout est caché dans le nucléaire. Il y a un débat public qui va être lancé pour l'installation des nouveaux EPR là qui commenceront à être construits dans une dizaine d'années là, les EPR de deuxième génération. La première génération, vu la catastrophe que c'est, ils se sont dit on va mettre deux à côté, deuxième génération, ça passera mieux. Et en fait il y a une consultation qui sera lancée le 27 octobre, mais ils vont prendre les décisions avant. C'est ça qui est sympa. Et on le sait, puisque il y a le Scott Bucopa. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le schéma d'aménagement du territoire Bugey, Côtière, Plaine de l'Ain, là où il y a la centrale nucléaire du Bugey, qu'on appelle du Bugey, qui est à Saint-Vulbas, en fait. Et donc là, il y a une décision en cours qui sera rendue pour changer ce Scott Bucopa, c'est-à-dire le modifier pour le rendre compatible dans l'acceptation d'un nouvel EPR, enfin d'une nouvelle centrale et donc d'un EPR. Ça va être modifié le 22 octobre. Et soi-disant, il y a un débat public qui s'ouvre, mais après les décisions. Donc en fait, toutes les décisions ont déjà été prises, vous l'avez toutes et tous compris, et c'est comme d'habitude de l'escroquerie. Ce qu'on notera, c'est qu'il y a eu une réaction des élus de certains élus lyonnais, pour dire qu'ils s'opposaient à l'implantation d'une nouvelle centrale nucléaire dans l'Ain. Il y a Jean-Charles Collas, qui est vice-président de la métropole, Rémi Zinc, qui est le maire du 4e de Lyon. Il y a d'autres personnes comme ça qui se sont mobilisées, qui disent que le nucléaire, c'est coûteux, c'est polluant, c'est dangereux pour la population et pour l'environnement. Ils sortent les généralités que tout le monde connaît sur le nucléaire, mais bizarrement, on oublie. Et surtout, on rappelle, la centrale est située à entre 30 et 35 kilomètres à vol d'oiseau d'ici. C'est-à-dire qu'en cas d'accident nucléaire grave, ils vont être obligés d'évacuer une partie de la ville, voire la ville. Or, aujourd'hui, personne, ni le préfet qui est responsable de la sécurité, n'est capable d'évacuer une telle ville. Donc, en fait, en cas d'accident nucléaire, ça va être comme ce qui s'est passé à Three Mile Island aux États-Unis quand il y a un accident nucléaire. Tout le monde va prendre sa bagnole et en 5 minutes, plus personne pourra rouler car toutes les routes seront bouchées. Il restera que le vélo. Comme une fois de plus, ça sera le vélo qui sauvera les gens. Mais voilà. Et c'est ce que le préfet refuse de mettre en œuvre une politique de sécurité par rapport au nucléaire. Et on continue d'avoir des projets et donc il y aura sûrement un ou deux EPR visible du plateau de la Croix-Rousse, hein, puisqu'on voit cette centrale, les cheminées, on voit surtout les cheminées de refroidissement de la centrale nucléaire de la Croix-Rousse. Donc voilà, c'est beau. En tout cas, c'est bien que des élus, ils sont une centaine en fait à se mobiliser. Il y a un article, voilà, bon, ça bouge un peu, mais ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, justement.
Alors j'aime bien vous donner des nouvelles des ultra-riches.
Ouais, c'est important.
Surtout quand ils ont des petits soucis. On va parler de Pierre Castel. Pierre Castel, vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, il a 96 ans. Il a une fortune qui est estimée entre... Alors je vais grave arrondir, parce qu'à ce niveau-là, j'estime qu'on n'est plus à l'euro près. Entre 14 milliards et 15 milliards, 16 milliards d'euros.
Ouais.
Voilà. Il aime bien rappeler Pierre Castel que c'est un immigré espagnol, qu'il a quitté l'école à 11 ans, qu'il a commencé à travailler comme ouvrier agricole avec son père, et puis qu'avec ses frères et sœurs, il a monté une petite affaire dans la boisson et qui est devenue aujourd'hui une multinationale. Pour vous dire un petit peu, ça, 500 millions de bouteilles par an vendues à travers le monde.
C'est bien.
Il paraît que ça fait 16, j'ai pas vérifié, si je me trompe, vous m'en voudrez pas, 16 par seconde. C'est le site internet du groupe Castel qui nous raconte ça. Alors, c'est en début de semaine, le site d'investigation suisse Gotham City, oui, ça s'invente pas.
Ils ont appelé ça Gotham City.
Oui, c'est un site qui est spécialisé dans la criminalité financière, ça s'invente pas, c'est suisse. Donc, le site Gotham City a révélé que Pierre Castel, donc propriétaire du groupe Castel, avec les marques, juste, excusez-moi, je refais une petite pause, c'est Baron de l'Estaque, Listel, Critère, tous ces trucs que vous connaissez peut-être, très générique, dans la boisson. Nicolas aussi, vous savez, les cavistes. On a appris donc par Gotham City, je me reprends, que Pierre Castel avait été condamné en appel par une cour à Genève pour avoir omis de déclarer une partie de sa fortune et donc de ne pas payer ses impôts correctement. Alors, il s'est payé une petite amende qu'il va contester en partie, paraît-il. Donc, 422 millions d'euros. Vous ajusterez, c'est à peu près 410 millions de francs suisses, vous ajusterez avec le cours du franc suisse et de l'euro. Donc c'est sur une période qui concerne 2007 à 2011. Tout ce qui est avant 2007, c'est prescrit. Donc du coup, il n'a pas pu se faire ponctionner plus d'argent. Mais en tout cas, c'est vrai que son groupe est assez tentaculaire. Et c'est aussi ça qu'a relevé cette chambre administrative de la Cour de justice de Genève. Alors il faut savoir que le groupe Castel, c'est tellement énorme qu'ils font partie de chaque année du bilan, du magazine Bilan, qui consacre, comme nous, chez nous, on a Challenge ou Billboard, les grandes fortunes en Suisse. Donc il y a les 300 plus riches de Suisse. Ils sont riches, hein. en Suisse. Hein. Donc ils sont entre la 10e et la 15e place, hein, les Castel. Ce qui est pas mal. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est le premier français de Suisse. C'est le plus riche.
Ah oui.
Des Français en Suisse.
Ouais.
Donc, ça vous donne une petite idée quand même. Hein.
Parce que les Français qui sont en Suisse, en général, ils sont déjà pas mal riches.
Bah, je te dis, les 300 plus riches de Suisse, ça fait quand même un peu un truc. Donc en tout cas, bon, du côté de Pierre Castel et de ses avocats, on dit qu'il a plutôt une imprévoyance légère. Je reprends le terme. Hein. Légère. Hein. Alors il faut se souvenir que quand même Pierre Castel, il s'est barré en Suisse quand Mitterrand il est arrivé au pouvoir parce qu'il avait peur des socialistes. Enfin, il avait peur qu'on lui pique son pognon. Hein, en fait, c'est un peu ça l'idée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que c'est croustillant, vous allez voir. Enfin, moi, je trouve ça croustillant. Personnellement, j'espère que ça va vous plaire aussi, cette petite histoire que je vous raconte. Il s'avère que Pierre Castel ne s'appelle pas Pierre. Il est devenu Pierre très jeune, parce qu'en fait, il était immigré espagnol et que pour éviter la discrimination et le racisme, il a changé de prénom, qu'effectivement, il a un prénom de naissance qui est assez marqué, qu'on retrouve hein, en Espagne, hein, qui il s'appelle Jésus Sébastien Castel, Jesús Sebastián Castel. Donc, il l'a changé en Pierre. Quand il arrive en Suisse, il s'est bien déclaré sous Jesús Sebastián Castel, mais il se fait appeler Pierre Castel. Et en fait, du côté des impôts suisses, on n'avait pas fait le rapprochement entre Jésus et Pierre.
Ah ouais.
Et c'est plusieurs choses qui m'ont amené, a priori, les impôts suisses à se poser quelques questions. C'est d'abord, différence de déclaration entre Pierre Castel, qui quand même dans les médias est censé quand même être à la tête d'une multinationale assez imposante. Et puis le fait que il y a un jour, apparemment, il y a quelqu'un chez les impôts, là, en Suisse, hein, qui est tombé peut-être sur un ou deux papiers où Pierre Castel racontait qu'il s'appelait donc Jesús Sebastián Castel. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est fait avoir. Alors, il paraît que c'était pas pour cacher son identité qu'il a fait ça. Et alors, ils ont... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il faut savoir que Gotham City fait donc un gros travail de recherche, parce qu'en fait, les données du jugement, en fait, le jugement a eu lieu le 3 juillet dernier, et en fait, donc ça vient d'être révélé par Gotham City, les données en fait du jugement sont anonymisées, mais il était noté donc dans le jugement, français d'origine espagnole, né en 1926, issu d'une famille modeste qui avait commencé à travailler comme ouvrier agricole avec son père, qui par la suite a créé avec ses frères et sœurs un groupe industriel mondial spécialisé dans la boisson.
Oui, c'était tout facile ça, de ça. Trouver.
Donc,
du coup,
il y a un moment, ils ont fait quelques rapprochements plutôt pas très compliqués. Alors, du côté des avocats de Pierre Castel, avocat fiscaliste, bien évidemment, j'espère que tu as un avocat fiscaliste aussi.
Oui, bien sûr, plusieurs.
Il paraît qu'on n'a pas cherché à mettre en place une structure insolite, mais à assurer l'indépendance, je cite, et la pérennité du groupe, et éviter tout conflit familial. Du côté de l'avocat fiscaliste, on reconnaît qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été déclarées. Mais qu'en fait, M. Castel, il est de la vieille école. C'est-à-dire que c'est tout ça, c'est la discussion orale, la poignée de main, c'est du management à l'ancienne, pour reprendre la terminologie de sa défense. Globalement, c'est parce que c'était comme avant, et que donc, comme avant, bon, on ne déclarait pas bien, on n'avait pas bien les papiers, donc c'est peut-être pour ça qu'il s'est un peu trompé. Il a peut-être une phobie administrative. Hein,
à lui aussi.
Allez savoir, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas une phobie de l'organisation, puisqu'il faut comprendre que... donc Pierre-Jésus Sébastien Castel, il est le donc l'un des patrons du groupe Castel, président de Cassiopée Group. En 2009, c'était la SCOMAF, qui était une fondation au Liechtenstein. Il y a des branches donc du côté de Gibraltar. La SCOMAF devient Cassiopée Group, qui a déménagé à Singapour. Et là, c'est lié à un fonds qui s'appelle Investissements Beverage Business Fund, à Singapour. Donc, vous voyez, c'est tentaculaire. Donc, aussi, les impôts suisses se sont intéressés à ça. A priori, quelques difficultés pour arriver à comprendre ce phénomène tentaculaire du groupe Castel, parce que ça va au-delà et que effectivement, il y a du dividende qui se barre, que c'est anonymisé et qu'en plus, à Singapour, ben, tout ça, c'est pas imposable. Hein, c'est bien pour ça que les gens vont là-bas. Et que c'est très difficile d'arriver à suivre sa trace. Toujours est-il que, du coup, je trouve ça quand même très, très drôle que les ultra-riches arrivent à se faire pincer. Et pour des histoires aussi bêtes de prénom, c'était malin en même temps.
Ouais, c'était malin.
C'était malin. Je vais essayer ça demain, de changer de prénom pour voir si les impôts me perdent.
Il faut que tu trouves un peu d'argent aussi. Hein.
Ouais, sinon c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Ouais.
Mais il faut que je change aussi peut-être d'autres choses aussi d'ailleurs. Ouais. Oh là là.
On poursuit, c'est une suite de l'information de la semaine dernière au sujet du site d'information reflet.info. Donc je l'avais annoncé la semaine dernière, ils ont été condamnés à fermer leur gueule, tout tout simplement, par la justice française, sous le truc du secret des affaires, là, au sujet de Altice et de son patron Patrick Drahi. Donc en fait, ils n'ont plus le droit de publier d'informations sur ce personnage et sa boîte, parce que ça peut rentrer en conflit avec le secret des affaires. Donc c'était un jugement symbolique fort, hein, parce que c'est rare, c'est la première fois, hein, que ce truc du secret des affaires est mis en avant, et surtout qu'ils sont condamnés pour quelque chose qu'ils n'ont pas commis. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait plein d'articles sur Altice, et la justice, alors donc Drahi et Altice ont porté plainte contre eux, parce qu'il a révélé plein de choses, etc. Des choses vraies, ils ne remettent pas en cause la véracité, hein, des choses. Ils mettent en cause le fait d'avoir révélé ces choses-là. Et en fait, la justice a dit, bah, vous, les articles que vous avez publiés, vous les laissez. Mais par contre, on pense que les prochains, grosso modo, vont aller dans le même sens, donc on vous interdit de les publier. Donc par avance. C'est la première fois, hein, on interdit à quelqu'un de publier des articles dont on ne connaît pas encore le contenu, mais vous êtes interdit. Alors, ça, c'est ce qui est arrivé la semaine dernière. Et ils ont pris une décision, c'est de se foutre de la décision de justice et de continuer. Donc ils publient de nouvelles enquêtes sur Altice. Alors c'est à la fois courageux, mais c'est pas idiot du tout, parce que d'abord ils ont fait appel, et le fait de faire appel, ça va les changer de tribunal, puisque là ils étaient au tribunal de commerce de Nanterre, un tribunal qui est animé, géré par des gens qui sont pas juges, qui sont des entrepreneurs, des gens du milieu du business. Et donc il y a des chances quand même que la justice, enfin on espère, et c'est ce qu'ils espèrent eux, les vrais juges disent, bah, la liberté de la presse c'est quand même plus important que ça, que le commerce. Normalement c'est censé être ça. Sauf qu'avec cette loi sur le secret des affaires, c'est beaucoup plus ambigu. Donc ils ont décidé de continuer. Alors il faut dire qu'ils ont reçu pas mal de soutien. Il y a eu des articles, il y a eu une pétition, il y a eu plein de choses. Une centaine de journaux, de syndicats, de journalistes se sont positionnés officiellement pour soutenir Reflet.info. Donc ça a dû leur mettre du baume au cœur. Ils se sont dit, on se plie pas à la décision du tribunal, on a fait appel, on continue de publier des choses sur Drahi. Et sur Altice, bien évidemment. Donc on verra ce qui va se passer pour la suite. Dès qu'on a d'informations sur l'appel, on espère que ça va aller vite et que ça va enfin tomber, puisque c'est une grosse atteinte à la liberté de la presse.
Alors on va parler d'un procès qui se tient depuis hier aux États-Unis d'Amérique. C'est auprès de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Alors c'est un procès qui a priori est plutôt dans la rigolade. C'est-à-dire que à la fois les juges et les avocats ont des arguments qui amènent un petit peu à rigoler. Les juges donnent leur avis sur leurs goûts musicaux, sur leur capacité en art.
Ah bon?
Ouais, je vais t'expliquer. Alors, moi, je vous propose de garder cette idée, hein, de discussion et de débat pour, je sais pas, dimanche, là, entre le chou brisé et le fromage, entre tonton d'extrême droite et votre nièce de la France insoumise. C'est des débats comme ça qui sont intéressants parce qu'on va parler d'art. Alors, c'est une affaire de droit d'auteur qui est liée à 16 portraits sérigraphiés réalisés en 1984 par Andy Warhol à partir d'une photo de Prince, le musicien, prise 3 ans plus tôt par Lynn Goldsmith, une photographe qui a immortalisé un certain nombre de stars du rock'n'roll. Et cette photographe, Lynn Goldsmith, elle demande des droits d'auteur à la fondation Andy Warhol qui gère l'œuvre d'Andy Warhol depuis 1987. Je vous explique pourquoi. Alors, il y a eu déjà plusieurs passages devant les tribunaux, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve devant les 9 juges de la Cour suprême, parce qu'il y a des décisions contradictoires. Et puis, cette Cour suprême, elle pourrait clarifier le droit de la propriété intellectuelle en matière d'œuvres dites transformatives, c'est-à-dire, tu prends une œuvre, surtout en particulier dans les arts plastiques, tu t'en fais quelque chose, et tu arrives à une œuvre originale.
Ça s'est fait plein de fois quand même.
Et déjà là, je sens qu'il y en a, ça, vous êtes déjà en train de vous demander, ah mais à qui c'est du coup le truc de départ? Eh ben c'est bien la question que soulève Lynn Goldsmith. Alors, en 1981, elle va faire pour Newsweek, l'hebdomadaire, un portrait de Prince, portrait noir et blanc, comme elle en fait auprès des stars. Prince à ce moment-là a pas encore sorti Purple Rain. Hein ? En 84, Vanity Fair, face au succès de cet album, va demander à Andy Warhol de faire un portrait comme il en fait, vous savez, les séries, oui, la sérigraphie de Marilyn Monroe, par exemple, vous savez que c'est Couleur, hein, qui fait en plusieurs exemplaires, hein, cette, ce truc assez typique d'Andy Warhol, pour donc justement une couverture. Enfin, pas pour une couverture, mais pour un article. Là-dessus, Lynn Goldschmidt accepte de prêter sa photo de 81 pour ce travail d'Andy Warhol en 84. $400, c'est pas cher payé. Voilà. Et donc, il y a tout un portrait, hein, qui est fait sur cet album Purple Rain et sur Prince. Le portrait réalisé par Andy Warhol s'appelle Purple Femme. Voilà pour l'histoire. Mais Andy Warhol, qui est quand même, ça faut le dire, quand même un petit peu un profiteur.
Ouais,
un
businessman.
A décidé d'utiliser cette idée pour décliner une série de 16 portraits du musicien.
Donc sérigraphié.
Voilà, avec toutes les couleurs possibles, comme il en a l'habitude. Et c'est en 2016, à la mort de Prince, que Lynn Goldschmidt va découvrir ce travail, puisque Vanity Fair a publié en une de magazine une nouvelle version sérigraphiée de Prince, avec l'utilisation de sa photo. Là-dessus, elle a contacté la fondation pour demander des droits d'auteur, hein, en disant bah c'est toujours ma photo. Et puis j'avais demandé une utilisation pour une photo, pas pour qu'aujourd'hui ça soit utilisé sur une série de 16. Alors en 2019, je vous ai dit, hein, il y a eu des décisions contradictoires. En 2019, il y a un juge de première instance qui a donné raison à la fondation en estimant qu'Andy Warhol avait transformé le message de l'œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, il estime que la photographe, elle a monté Prince dans son rôle de musicien. À ce moment-là, il c'est pas une superstar encore, hein. C'est pas voilà, il fait c'est un musicien.
On voit quand même, oui.
Ouais, mais je veux dire, c'est pas le phénomène je veux dire, Purple Rain, ça a quand même bouleversé la musique. Enfin, je veux dire, mince, quoi. Enfin, en tout cas, mais qu'elle le montre comme un être humain, finalement, vous voyez. C'est en tout cas la position de ce juge, alors qu'en fait, il estime que Andy Warhol, il l'a mis justement sur le même niveau que Marilyn Monroe, que Mao, que tous ces gens qu'il a mis en sérigraphie parce que c'était des stars. Et donc il l'a transformé en icône, et donc c'est pas le même travail, il a transformé l'œuvre et il lui a donné un autre statut. Ensuite, il y a une cour d'appel qui a invalidé le raisonnement en disant que c'était pas au juge d'être critique d'art et d'analyser les intentions de l'œuvre. Vous voyez, déjà, là, on, dans le débat, je trouve ça assez intéressant. Et c'est ce qui est en train de se passer, là, auprès de la Cour suprême, où il y a le chef de la Cour suprême, qui s'appelle John Roberts, qui, insiste sur le fait que Portrait d'Andy Warhol ne visait pas à montrer à quoi ressemble Prince, mais à donner une perspective sur son statut de célébrité, je le cite. Alors que l'avocate de Lynn Goldschmidt, elle dit, entre deux photos, c'est toujours moi qui suis prise en photo. Ce que lui répond le juge, bah non, c'est plus la même chose, parce que du coup, il y a une transformation. Et c'est tout ce travail-là, et c'est toute cette analyse-là, à qui est-ce qu'il y a l'œuvre, elle est encore utilisée? Est-ce que cette photographe, elle doit encore participer, avoir des droits d'auteur pour une participation de son œuvre à une nouvelle œuvre? Et donc, c'est tout ce principe de transformation d'une œuvre d'art en une autre qui est ici au cœur de ce procès. Alors, tout le monde s'est bien amusé, hein, a priori, puisque on a appris qu'un des juges adorait Prince et que du coup il était passionné d'être là pour participer à ce procès, que John Roberts, dont on vient de vous parler, était un grand connaisseur en matière d'art abstrait, donc il est passionné lui aussi, donc tout le monde a l'air très très content d'être dans cette situation. Mais en tout cas, il y a un vrai débat de fond quand même, de savoir à qui appartient l'œuvre, et est-ce qu'on peut utiliser l'œuvre de quelqu'un en la transformant sans lui demander jusqu'au bout son avis et surtout sans la rémunérer. C'est tout ce principe de droit d'auteur, et en particulier aux États-Unis où on parle de licence davantage que des droits d'auteur, qui sont très différents, hein, à ce qu'on peut avoir en France, qui est vraiment particulier, hein, au monde, il faut le dire quand même. Et puis il y a des juges qui sont déjà pas d'accord, puisque par exemple Sonia Sotomayor, elle dit que cette Orange Prince, comme maintenant il est appelé, était là pour illustrer un article, comme l'aurait fait une photo de Lynn Goldschmidt, et que donc elle avait aussi un usage commercial. Et donc il y a aussi cette notion là qui rentre dans la question et dans ce débat. Elle dit que si ça avait été utilisé pour accrocher dans un musée, ça serait déjà pas pareil. Donc on voit que tout est en train de se lier. Créateur, créatrice, utilisation, art, commerce, presse. Et tout ça va amener un grand débat. On attend le rendu le 30 juin 2023. Franchement, c'est des débats que je trouve extrêmement intéressants, parce que c'est pas si simple, en fait, d'avoir une position. Ou alors, si, on peut être très pragmatique.
Alors, un sujet contrôle des populations, avec la question et la réponse à la question, la gauche est-elle, peut-elle être aussi liberticide que la droite? Et la réponse est oui, ça y est, j'ai spoilé, c'est bon, vous avez compris. C'est bien à peu près la même chose. Donc, on va parler de Marseille. Vous savez qu'il y a eu un changement de majorité à la ville de Marseille. Il y avait l'espèce de vieux crouton là qui était une sorte de baron de la droite là qui dirigeait Marseille pendant des millions d'années.
Je pense que tu peux enlever le une sorte.
Ouais. Il a perdu les dernières élections et il a été remplacé d'abord par une écolo et ensuite par Benoît Payan, donc qui est actuellement le maire, alors issu du Parti socialiste. Oui oui, ça existe encore. Donc socialiste et de droite, hein. Ah non, c'est de gauche. Enfin ouais, je crois du coup c'est de droite en fait. Mais au départ c'était de gauche, parce que c'était une coalition, une sorte de gauche plurielle, hein, qui s'était présentée à Marseille. Et il y a un projet de vidéosurveillance forte à Marseille. Alors on va faire un petit retour sur les faits en reculant chronologiquement. Fin septembre, donc il y a quelques semaines, 15 000 personnes rejoignaient une plainte collective initiée par la Quadrature du Net contre le ministère de l'Intérieur. Cette plainte dénonce l'imbrication des différents dispositifs de surveillance mise en place ces dernières années et notamment le recours croissant à l'intelligence artificielle pour détecter les comportements dits anormaux, suspects, etc. dans l'espace public. Donc ça c'est la dernière étape, on va aller à Marseille après. Fin 2018, la précédente majorité municipale de Marseille, représentée à l'époque par l'adjointe à la sécurité qui s'appelle Caroline Posementier, qui est aujourd'hui conseillère régionale dans la région, en PACA, sous l'étiquette Renaissance, le parti de droite du président de la République française. Elle avait signé donc avec la société SNEF un contrat pour installer un dispositif de vidéoprotection intelligente, ce qu'on appelle en fait réellement de la vidéosurveillance algorithmique. Parmi les fonctionnalités envisagées, hein, c'est comme d'habitude détection de tout ce qui paraît pas normal. Des gens qui écrivent sur un mur, des graffitis, des gens qui ont un comportement bizarre. Et avec ces logiciels, ces algorithmes, ils peuvent remonter dans les anciennes images pour retrouver le trajet de la personne qui est soupçonnée, etc. Enfin, c'est un contrôle généralisé des populations, bien évidemment. Vous connaissez le système. Alors, il y avait eu un premier recours introduit en référé en 2020, rejeté pour des raisons de procédure. Et du coup, la mairie s'était lancée dans la rédaction d'une étude d'impact qu'elle avait donnée à la CNIL, et la CNIL avait demandé à la ville de revoir sa copie. Donc ça, c'est encore sous l'ancienne majorité, hein. Ce qui n'a jamais été fait. D'ailleurs, ça n'a jamais été rédigé à nouveau. Enfin, en tout cas, personne n'est au courant de ce qui a été fait. Donc, du coup, tout le monde s'était dit, bah voilà, avec la nouvelle majorité de gauche plurielle élue donc en l'été 2020, et ben voilà, c'est bon, ils vont abandonner cette idée de vidéosurveillance dite intelligente, algorithmique et de surveillance et de contrôle des populations. Et tout le monde dit, ouais, c'est bon. Question quand même posée à la personne chargée de la sécurité à la mairie de Marseille, il répond jamais. Alors là, c'est. Et puis, il y a eu un recours déposé par la Quadrature du Net, et là, on apprend que la mairie a embauché des avocats pour défendre un cabinet d'avocats, donc du coup, pour défendre la légalité du projet. Donc le projet, c'est. Et c'est la défense de la ville, donc, et du cabinet d'avocats qui le représente, c'est de dire c'est un projet d'essai, de test. On essaye de voir à quoi ça peut. Ce que ça peut faire. Oui, bah, on essaye un truc sur lequel on est d'accord. Bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'allez pas essayer. Donc, ce qui est reproché à cette gauche, c'est d'être liberticide autant que la droite et l'extrême droite, finalement, en termes de vidéosurveillance. On avait l'habitude, ici, on a eu un maire qui avait installé, qui était de soi-disant de gauche, hein, au Parti Socialiste aussi, il paraît à un moment, Gérard Collomb, et qui avait installé plein de caméras de vidéosurveillance de l'ancienne génération. Elles n'étaient pas encore intelligentes. Mais maintenant, elles le sont. Donc, c'est ça qui craint. Donc, la Quadrature du Net a fait un mémoire en réplique, ça s'appelle comme ça, pour dénoncer tout ça. Et on a une attente. Là, ce qu'a fait la Quadrature du Net, c'est obliger le gouvernement et la justice à répondre pour donner une réponse claire. C'est est-ce que c'est légal ou pas? Et parce que tel que c'est mis en place, En fait, il n'y a rien dans la loi qui autorise ce genre de choses. C'est-à-dire repérer les visages, les comportements, suivre les personnes. Ça, c'est pas autorisé par la loi. Donc, s'ils expérimentent et qu'ils ont le droit d'expérimenter, ils sont hors la loi. Et ce que veut faire tomber la Cour d'Antoine Dunette, c'est ça, c'est ces projets de test, ils sont hors la loi, il faut les arrêter. Pour qu'on ne bascule jamais dans la société de contrôle telle qu'on l'a en Chine, par exemple, qui surveille et qui contrôle sa population. Donc c'est la bataille de la quadrature du net. Ils en sont là aujourd'hui. La position de la CNIL, elle est comme d'habitude ambiguë. La présidente de la CNIL, hein, c'est une personne de droite. Donc elle va pas... je sais pas pourquoi on met une personne de droite pour défendre les libertés, parce que du coup, elle défend pas les libertés. Donc elle a une position ambiguë en disant d'améliorer les rapports, d'améliorer les gardes fou entre guillemets, mais c'est pas ça qu'il faut, hein, c'est interdire tout ce qui est contrôle des populations. Vous savez, on signe la RGPD là sur les droits de donner nos infos ou pas. En fait, c'est pareil, ces vidéosurveillances dites intelligentes, ben, elles sont à l'encontre de nos droits, puisqu'elles nous repèrent. Voilà. Et alors, sur le jour où ça sera mélangé au fichier de la flicaille, là, on sera la Chine, en fait. Et on tend, et on n'en est pas loin du tout. C'est juste une question technique à franchir, enfin, technique judiciaire et législative à franchir. Et la quadrature du net fait partie des structures qui luttent contre ça. Mais la lutte est quand même, pour l'instant, disproportionnée. On verra, en espérant qu'ils gagnent.
Je te laisse continuer avec Liban-Israël.
Ah bon ? Oui. Alors, j'ai juste un petit truc à dire. Vous avez peut-être entendu parler de ça aujourd'hui. En fait, ça fait 2 ans qu'il y avait des négociations sous l'égide des États-Unis d'Amérique entre Israël et le Liban pour trouver un accord sur la mer. En fait, c'est pas tant la mer qui les intéresse, qu'ils n'ont rien à faire de la mer. Ce qui les intéresse, c'est la réserve de gaz offshore qui est accessible par la mer et qui est donc entre le Liban et Israël. Donc là, il y a un accord historique qui est pas signé encore, mais qui a été publié par L'Orient le Jour. Ils l'ont chopé, c'est le journal de référence libanais. Et ils ont chopé le texte complet, ils l'ont publié. Et on apprend pas mal de choses. On apprend notamment que, en fait, l'accord, il a été négocié et que tout le monde est d'accord actuellement. Alors c'est qui tout le monde ? C'est là où c'est un peu compliqué, c'est le chef du gouvernement libanais, on sait pas bien s'il y a vraiment un chef, le président libanais qui s'appelle Aoun, mais dont le mandat s'arrête le 1er novembre, avec l'accord du Hezbollah, parce qu'on rappelle, il est allié au Hezbollah. Le Hezbollah a dit, si l'État, si le président dit oui, l'État dit oui, nous, on est d'accord. Alors ça, c'est quand même une révolution, hein, que le Hezbollah accepte. Alors, pas directement, mais indirectement. Donc c'est pas mal. Mais de l'autre côté, c'est signé, enfin ça va être signé, c'est pas signé encore, par le Premier ministre israélien. Or, le Premier ministre israélien, dans 15 jours, il est plus là, puisqu'il y a des nouvelles élections. Donc du coup, l'enjeu de cet accord est devenu un enjeu politique, alors pas du coup au Liban, mais en Israël, puisque bon, on a les deux candidats favoris là qui s'affrontent pour devenir Premier ministre. Le sortant, Yair Lapid, qui défend le projet, puisqu'il l'a bossé avec, et qui veut le présenter à la Knesset, qu'il a bossé dessus. Et de l'autre côté, Benjamin Netanyahou, qui bien sûr est contre, etc., qui dit adhérer au Hezbollah, c'est soutenir le Hezbollah. Alors, tu sais, comme d'habitude, il a des propos extrêmes, hein, il est de droite, voire d'extrême droite, donc la vérité et tout ça, il connaît pas. Et la situation est ambiguë parce que des deux côtés, les gouvernants sont dans des situations de fin de règne, si on peut appeler ça comme ça. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment régné Yair Lapid là. Ça a été compliqué pour lui cette période de Premier ministre. Donc là, il espère gagner les élections. Mais voilà. Alors c'est quand même symboliquement fort, hein, qu'il y ait eu un accord. Comme quoi, quand il y a de l'argent à se faire. En fait, tout le monde est prêt à arriver à un accord. Et c'est ça qu'il y a à noter, parce que là, c'est énorme l'enjeu financier, l'enjeu mais avant tout financier, mais aussi en termes d'énergie, qu'il y a dans ses réserves. Donc là, d'un seul coup, le Hezbollah et Israël sont prêts à être d'accord. Comme quoi, hein, le business, ça fait faire des trucs bizarres. Donc voilà, on en est au Liban. Voilà, il faut attendre les élections et on va dire mi-novembre pour voir ce qui se passe en fait sur cet accord qui est quand même relativement historique parce que des accords comme ça, bon, il y en a eu à la fin de la guerre, hein, en 83, en tout cas le 17 mai, il y a eu un traité de paix, mais voilà, c'est que ça reste compliqué entre le Liban et Israël.
Alors on va terminer sur les accidents de chasse, au pluriel pour accidents,
dans notre région. Accidents.
Alors, dimanche, dans la Drôme, à Vinsobres, vous connaissez peut-être, si vous levez le coude.
C'est le nom d'un vin.
Parce que j'ai pas le droit de le dire. Donc, un cueilleur de champignons s'est pris une balle dans l'abdomen. C'est le président d'une association de chasse locale qui lui a tiré dessus. Il paraît qu'il a été obligé de déclencher un tir de défense contre un sanglier qu'il chargeait. C'est une balle perdue qui aurait donc touché le cueilleur de champignons.
Ah, les balles, elles se perdent. Elles partent là où on n'a pas envie qu'elles partent.
Je sais pas, il s'est mis devant le sanglier, peut-être le cueilleur de...
Oui, il ressemblait au sanglier, après tout. Hein, ça peut arriver.
Enfin bon, il a a priori... était dans un état quand même assez grave. Et puis, à Pommiers, dans le Rhône, près, dans le Beaujolais. Une femme avec ses deux enfants qui se promenait, parce qu'il paraît qu'on peut se promener quand même. Hein.
Alors, en période de chasse, c'est plus compliqué du
coup. En tout cas, elle se serait fait, comme j'ai pu le dire, tirer dessus accidentellement par un chasseur.
Hein, le fusil est parti tout seul. Il tire tout seul, le fusil.
Ouais. Donc, ils ont été touchés aux jambes. Voilà, c'est super. Alors là, il paraît que ce chasseur a été ébloui par le soleil.
Putain, les mecs. Ça
a fait réagir Willy, le président de la Fédération nationale des chasseurs, qui mercredi, sur RMC, a expliqué qu'il fallait retirer son permis à ce vilain chasseur qui n'avait pas respecté la règle. De temps en temps, Willy, quand même, il en chope un, et puis c'est lui qui prend. Parce que d'habitude,
ça s'appelle un fusible.
Là, il paraît qu'il a tiré ce chasseur trop près d'une route, puisqu'il a expliqué sur France 3, cet octogénaire, j'étais sur la route, puis j'étais dans la vigne. Déjà, peut-être que
pour
arrêter
la
chasse à un certain âge. Hein. J'étais sur la route, puis j'étais dans la vigne, puisque je ne pouvais pas rester sur la route. Ok. Ouais. J'attendais qu'un lièvre arrive. Encore une fois, peut-être qu'à un moment, quand on est trop vieux, il faut arrêter la chasse. J'ai tiré, mais j'ai tiré et ça a fait ricochet. Ah, le ricochet du chasseur, encore une fois. Voilà. Donc, Willy a décidé que cet octogénaire serait donc la personne qui, en 2022, serait donc taclée chez les chasseurs.
Voilà, il en fallait un, c'est lui.
Et voilà. Alors, du coup, je tiens quand même à remercier JB, qui nous a farci d'un bel article.
C'est qui JB?
Je ne sais pas. J'ai une piste que je vais vous dire après. JB, donc, dans le Dauphiné, sur le Dauphiné.com, excusez-moi, site internet donc, de cette presse locale, qui nous a donc... fait la joie de nous faire un papier qui s'appelle « Seul ou en famille, venez profiter d'une matinée de découverte de la chasse ». Donc c'est publié aujourd'hui à 16h47 par JB et on a eu droit à une photo, belle photo, avec un petit libellé dessous qui nous dit « Renan, à droite, chasseur depuis sa majorité, aime partager ses expériences à la chasse, notamment ici avec son neveu Jordan à gauche. Ils seront présents ce dimanche donc pour cette grande matinée de démonstration de « Viens à la chasse ». Cette photo, elle est prise par Jérôme Brouin. J'ai une piste, JB.
Ah, ça y est,
Jérôme Boire. Mais je ne voudrais pas accuser Jérôme Boire parce que je n'ai pas de preuve qu'il est JB de nous avoir fait un article pro-chasse sur le Dauphiné.com. Ouais,
la belle propagande. Il aurait pu mettre une photo d'un animal mort en sang. C'est ça, la chasse. Hein.
Alors, justement.
Non, surtout pas.
Si ça vous énerve, il y a un certain nombre de sites de comptes plutôt sur les réseaux sociaux et commerciaux anti-chasse et qui justement vont aller chercher les petites perles comme ça, qui sont souvent très intéressantes, où on voit les chasseurs toujours très très fiers avec leurs animaux morts devant. Là d'ailleurs, dans le Rhône, il y a aussi des chiens qui auraient échappé à leur maître chasseur, parce que c'est bien...
Ah oui, qui aurait bouffé des bouts de gens, là.
Ouais, qui aurait bouffé des animaux. Là aussi, le chasseur a des chiens ricochets qu'il n'arrive pas à maîtriser, et que donc, par ricochet, les chiens sont allés sur la propriété de quelqu'un d'autre bouffer leurs animaux. Voilà, la
c'est
chasse.
Sympa, hein,
la chasse est quand même une belle passion de droite. Voilà. Bon. Sur ce, je vais vous laisser.
Si vous voulez tuer quelqu'un, c'est quand même pratique parce que c'est toujours un accident. Ça, c'est pas mal hein, quand même. Hein.
Ouais, mais du coup, c'est mieux si jamais demain, toi, je veux par exemple te tuer. Si tu pouvais te mettre à la cueille des champignons, ça me ferait une belle excuse parce que pour l'instant, je suis dans la merde.
Ouais, parce que
mais c'est vrai que. Non, mais
je
on en rigole. On en rigole, mais
en fait,
ça fait quand même beaucoup d'accidents tous les ans.
Et c'est pas des accidents, en fait. Le problème, c'est qu'on appelle ça un accident.
Oui,
c'est quelqu'un qui tire volontairement sur des gens. que ce soit des cyclistes, des promeneurs, des promeneuses, des enfants, c'est pas un accident quand on a une arme dans la main et qu'on tire.
Non, mais surtout, c'est qu'ils sont mis en garde à vue, puis souvent, ils sont libérés tout de suite. Ben voilà, enfin,
un accident, c'est quand je sors de chez moi et je rentre dans quelqu'un parce que je l'ai pas vu. C'est un accident.
Voilà. Bon, bref. Donc, voilà, on n'aime pas trop la chasse.
Allez, reste 30 secondes.
On va vous laisser.
Non, j'ai un truc à dire. Il y a le collectif des étudiants et des étudiantes iraniens de Lyon qui appelle à un rassemblement ce samedi à 15h. On sera aussi le 15 octobre d'ailleurs. Place Bellecour, en soutien aux Iraniens et aux Iraniennes qui luttent contre l'obscurantisme religieux, contre la dictature des mollahs, qui luttent pour leur liberté de tout. Leur liberté tout court.
Et voilà. C'est pas demain qu'il y a le rassemblement aussi pour Salah Mourine, non, c'était pas, il me semble.
Alors, il y a aussi un autre truc.
Non,
mais
c'était pas ça, il me semblait que c'était demain aussi, à 18h30.
Non, mais attends, je peux te trouver. Non, mais je suis pas sûr d'avoir l'info quelque part.
Voilà. Voilà, 18h30. Demain, vendredi 14 octobre.
T'as trouvé ?
Non, mais non. C'est dans mon cerveau.
Ah ouais, mais moi j'en ai pas.
Ah voilà, c'est ça. Il me semble, si c'est pas ça, bah vous aurez fait une promenade. Ouais. Mais je crois que c'est ça. Sinon, vous irez regarder sur Rebellion. Il y a évidemment tout un agenda qui vous raconte tout plein de choses parce qu'il se passe plein de choses. On est dans une rentrée, donc il y a des rendez-vous. Et voilà.
Il est 20h à la pendule la plus rebelle des radios.
Eh ben, on vous laisse et on se retrouve nous la semaine prochaine. On vous souhaite une très bonne soirée pour l'instant, donc avec les bandes musicales de Radio Canu, la plus rebelle
des radios.
Et voilà.
Bye bye.
Ciao.